Bienvenue dans Entreprendre dans la mode, le podcast des entrepreneurs et des acteurs de la mode. Je m'appelle Adrien Garcia, je suis designer et chaque semaine, je vais à la rencontre des hommes et des femmes qui font la mode. Qu'ils soient créateurs, entrepreneurs, institutionnels ou influenceurs, je les interviewe pour comprendre leur parcours, leurs problématiques et leurs stratégies pour innover et se développer. Avec ce podcast, je souhaite recueillir et partager des conseils pratiques et des idées neuves pour se lancer et réussir dans la mode. Dans ce nouvel épisode, nous allons à la rencontre de Lucien Pagès. Il est le fondateur du bureau de presse Lucien Pagès. Après la chambre syndicale, une marque de maille et 5 ans passés aux côtés du célèbre DA Marc Ascoli, Lucien lance son bureau de presse avec comme premier client Adam Kimmel. Nommé 41e français les plus influents de l'année par Vanity Fair, Lucien et son équipe accompagnent des marques comme APC, Jacquemus, Loewe ou encore Byredo et Glossier. Dans cet épisode, Lucien revient sur son parcours, sur ses tout débuts d'attaché de presse, sur sa méthode et on parle de beaucoup d'autres sujets. J'ai adoré interviewer Lucien, j'espère que vous prendrez autant de plaisir à l'écouter. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes, alors pensez à vous abonner et surtout, bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Entreprendre dans la mode. Je suis aujourd'hui avec Lucien Pagès, le fondateur du bureau d'attaché de presse. Lucien Pagès, bonjour Lucien.
Bonjour.
Pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît ?
Alors, je suis Lucien Pagès, j'ai un bureau de presse à Paris depuis 2006. Et voilà, j'ai 43 ans et je travaille dans la mode, dans le lifestyle, dans le luxe, dans voilà, toutes les facettes du monde de la mode et de l'art de vivre.
Très bien. Et la deuxième question que je pose en général, c'est est-ce que vous pourriez reprendre votre parcours depuis vos études supérieures, même depuis votre enfance, si vous pensez que c'est important de le mentionner, ouais. Jusqu'à aujourd'hui ?
Ok. Alors, donc déjà, mon parcours, enfin comme tous les parcours dans la mode, j'ai l'impression souvent, c'est un peu particulier. C'est tout. Je remarque que les gens qui arrivent dans la mode, c'est jamais d'une manière très classique ou prédisposée en fait. C'est pour ça que j'aime bien ce milieu, c'est que les gens viennent de partout et c'est juste la passion qui les a guidés. Et c'est pas comme quelqu'un qui aurait fait des études supérieures et qui a un parcours tracé, en fait. Personne n'arrive dans la mode avec un parcours tracé. Enfin, à part peut-être des gens qui ont rêvé d'être designer et qui deviennent designer et qui ont fait une école de mode. Donc moi, en fait, j'ai rêvé d'être designer. J'étais dans le sud de la France, dans un village paumé dans les Cévennes. Et j'ai toujours adoré la mode. Je sais pas pourquoi, il y a pas de raison. Mon père était chef cuisinier, on avait un hôtel-restaurant dans un village, donc il y avait rien de prédestiné. Mais j'ai toujours adoré la mode et après j'en ai parlé à mes parents et j'ai regardé ce qui était possible de faire. Mais mon père était très, d'abord j'étais enfant unique, donc c'était peut-être plus facile pour mes parents pour me financer de venir à Paris que si on avait été plusieurs. Et mon père c'est quelqu'un qui s'était fait tout seul et qui était assez ambitieux. Et donc, il comprenait qu'on veuille se réaliser dans une passion. Donc, du coup, ils m'ont laissé venir à Paris. Après, j'ai fait dans mon village, il y avait un collège. Donc, je suis resté jusqu'à 15 ans dans ce village. Après, j'étais au lycée à Nîmes pendant 3 ans. J'ai fait un bac littéraire. Et après, je suis venu à Paris faire l'école de la chambre syndicale de la couture parisienne. J'avais vu un article dans le Nouvel Obs sur les écoles à Paris. Et il y avait les écoles de la chambre syndicale entourées en bleu avec une espèce de croquis méga couture. Il y avait écrit que c'était très BCBG Select. Donc je me suis dit, c'est là où j'ai envie d'aller. Et j'en ai parlé à des gens autour de moi. Ils m'ont dit, ils vont jamais te prendre. Du coup, ça est devenu un objectif. Et voilà, donc je suis venu à Paris faire cette école de mode que j'ai fait pendant 3 ans. Ensuite, j'ai monté une ligne de maille avec un copain à la suite de ça, qui était hyper formateur en fait, parce que c'est l'époque 97, 98. Avant, j'ai zappé, mais j'ai fait des stages chez Dior avec Gianfranco Ferré, j'ai fait des stages avec Yves Saint Laurent lui-même. En tant que designer, parce que je faisais des études de designer.
Ouais.
Et ensuite, j'ai arrêté de travailler avec ce copain et suis devenu assistant d'un directeur artistique, Marc Ascoli.
Ouais.
Voilà. Et sa femme, Martine Sidbon, ils travaillent dans les mêmes locaux qui sont exactement situés en face. C'est-à-dire, j'ai maintenant mes bureaux en face de là où j'ai passé 6 ans en tant qu'assistant. Et maintenant, j'ai mes bureaux en face, donc c'est assez drôle. Comme la vie vous amène des fois au même endroit. Bon, il y a pas, il y a aussi des raisons en fait, mais bon. Et j'étais assistante de Marc Ascoli pendant 6 ans, travaillais beaucoup avec Martine Sidbon sur sa communication. On avait nos propres clients de la direction. On faisait Chloé avec Phoebe Philo les premières saisons, les 3 premières saisons, je pense qu'elle a fait là-bas, ou quatre premières saisons. On travaillait pour Hugo Boss avec Merthe Marcus, Cathy Grant. On travaillait pour Jean-Baptiste Avali qui était chez Ungaro à l'époque. Ouais.
On avait... Comment on passe de la création de Maï à de la direction artistique chez
c'est du networking en fait.
C'est une opportunité à un moment donné.
Oui, c'est que je connaissais quelqu'un qui travaillait chez Marc et Martine. Et qui a dit tu t'entendrais très bien avec eux, tu devrais les rencontrer. Ouais. Donc j'ai été là-bas. Après moi j'ai toujours été assez flexible, c'est-à-dire j'ai été là-bas un peu pour les aider, un peu gratuitement comme ça, et puis on s'est bien entendu, puis ils m'ont engagé.
D'accord.
Je savais que avec mon background je pouvais pas avoir tout de suite accès à un poste à responsabilité. Je savais que c'était ma personnalité qui allait faire qu'on allait m'engager. C'était pas mon CV. Donc il fallait que je prouve que j'étais intéressant, passionné, travailleur, tout ça. Et ça, donc c'est pour ça que j'ai toujours été prêt à faire des efforts l'argent n'a jamais été vraiment une motivation. Donc ça m'a permis.
C'était quoi la motivation d'ailleurs?
Je voulais me réaliser dans la mode. Donc du coup ce qui est intéressant aussi c'est le switch. À quel moment j'ai décidé que j'abandonne l'idée de création en fait. C'est ça. Alors, c'est plutôt. En fait, je réalise que je vais être un très mauvais designer. Et moi, je voulais vraiment me réaliser dans la mode. Je voulais être dans la mode, mais réussir. Je voulais pas être.
Has-been, ouais.
Oui, ou un peu là à la traîne dans un studio sympa, mais qui va. Enfin, voilà, on n'a qu'une vie. J'avais envie qu'elle soit plutôt belle. Donc, j'ai senti que, en tant que designer, ça n'allait pas se faire. Donc du coup, je me suis réaiguillé d'abord dans ce travail de art direction. Et ensuite, en travaillait chez Martine Sidbon aussi. Et on l'aidait pour la boutique, les défilés. Ils avaient un bureau de presse qui était Michel Montagne. Moi, je venais en complément de Michel Montagne, mais je ne faisais pas la presse. Je faisais plus des célébrités, l'organisation du défilé, la production avec la Moderne Image ou Thierry Dreyfus. Enfin, voilà, j'étais une sorte de lien de communication. Et puis, je me suis posé. Du coup, c'est comme ça que j'ai commencé à aimer ce travail de communication, en fait, plus que d'art direction.
Et juste entre parenthèses, le métier d'art direction, ça consiste en quoi pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est?
Après nous, c'était c'était en train de changer parce que Marc Ascoli, c'est un art directeur qui a fait les campagnes de Jean Sander, de Yohji Yamamoto, qui a découvert les plus grands photographes, et il travaillait, c'était plutôt mettre des équipes en place, avoir des visions. C'est plus old school que ce qui était en train de se passer en art direction, qui était devenu plus du graphisme. Les grands art directeurs étaient en train de devenir des graphistes, alors que Marc, c'est vraiment un art directeur qui met en place des équipes et qui poursuit une vision pour une marque, qui fait beaucoup de réflexion, qui travaille beaucoup sur les mots, pas que l'image. Du coup, nous on le faisait comme ça, mais il y a d'autres personnes qui le faisaient autrement. Donc, nous, c'était vraiment un travail sur l'image et ce que veut dire l'image. Je ne me rappelle plus la question.
Non, la question, c'était quoi? Ensuite, vous étiez en train de...
Quelle est la différence entre art director et...
Je vous demandais simplement de définir ce que c'était que l'art direction. Ça consistait en quoi, art director, pour les gens qui ne sont pas forcément dans la mode?
Bon, là, je racontais notre spécificité avec Marc Ascoli, mais avec un art director, c'est quelqu'un qui travaille sur une image de marque.
Ouais.
D'une manière
qui crée une image
visuelle.
Et donc, le quotidien, c'est chercher de l'iconographie, c'est d'avoir
des recherches,
une vision,
des moodboards, chercher
des photographes.
Des photographes, voir des books, recevoir des agents, voir des mannequins, des nouveaux mannequins, avoir l'œil sur les nouveaux mannequins. Ça, j'adorais le faire. Avec Marc, on rigolait bien. On faisait beaucoup de casting. On a été parmi les premiers à donner une campagne à Anna Rubik.
Ouais.
Alors qu'elle n'était pas connue du tout. D'ailleurs, on s'est battu pour ça. Enfin, c'était assez drôle.
C'est vraiment un métier de dénicheur de talent et d'avoir une vision.
J'adorais avoir des coups de cœur. Il y avait des filles démentes qui débutaient. Et on a fait le premier défilé de de Daria. Elle a fait son premier défilé chez Martine Sidbon. Elle a ouvert le défilé Martine Sidbon, parce que Martine l'avait adoré. Il y avait, on était vraiment dans ce travail de dénicheurs de talents et de nouveautés. Ouais. Et ça, c'était génial d'être, parce qu'on adorait être les premiers. Ouais. Et ça, j'adorais cette partie-là. Après, voilà. Enfin, mais c'était vraiment, voilà, c'est l'image de marque et surtout visuelle.
Très bien. Et donc là, vous continuez chez Marc Ascoli pendant quelques années. Vous restez 6 ans, il me semble.
Ouais, 5 ans et demi. Ouais.
5 ans et demi. Ouais. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe?
Ensuite, chez Marc Ascoli, mon horizon était assez bouché parce qu'il n'y avait que Marc et moi. Donc, je ne pouvais pas prendre sa place. Et puis, j'avais envie de voir autre chose. J'avais fait 6 ans et tout ça. J'avais besoin de passer à autre chose. Et puis, je savais que je ne serais pas art director. Ça ne m'intéressait pas, en fait. Parce que j'avais vu que ce travail avait changé et que Marc pouvait le faire comme il le faisait dans toute sa légitimité parce qu'il avait l'histoire et le background et le respect des autres. Mais moi, je n'étais pas graphiste et je ne pouvais pas devenir un deuxième Marc Ascoli. Donc, ce n'était pas un travail pour moi. Et donc, voilà. Mais tout ça s'est fait d'une manière très naturelle, en fait. En parallèle, j'ai rencontré Adam Kimmel, qui était un créateur américain qui faisait de l'homme, qui était très cool, mais pas méga connu à ce moment-là. Il vendait chez Colette, comme ça, d'Overset Market. C'était très underground, cool, chic. Il travaillait avec tous les artistes. Il mettait les artistes dans ses lookbooks. C'est le premier à avoir fait ça. Et du coup, lui avait envie, on avait envie qu'on travaille ensemble. Et il avait pas envie d'être dans un grand bureau. Et donc, du coup, un peu devenu son attaché de presse en Europe. Et on a commencé comme ça. J'ai commencé avec lui comme seul client pendant longtemps. Et après, j'ai commencé à représenter des gens qui étaient proches de moi. Il y avait Vincent Daré qui lançait la maison Daré dans la décoration. Il y avait Olympia Le Tan, Yas Bouquet. C'était des copains qui lançaient leur marque. Et donc j'avais Adam Kimmel et ses copains. Et pareil, j'étais pas pressé, j'étais tout seul avec une assistante, au début une stagiaire, après une assistante. J'étais pas du tout, je refusais les clients, j'étais très snob. Et après, voilà, j'ai commencé à représenter Sakai, qu'on m'a présenté, qui était, c'est un peu, on a vraiment, vraiment pour le coup grandi ensemble, parce que Sakai, c'était une marque qui était inconnue hors du Japon, mais qui vendait déjà très bien. Qui était déjà dans des très beaux points de vente, mais les gens s'achetaient du Sakai juste pour la qualité, la beauté du design. Ils savaient pas, il n'y avait pas de brand awareness. Ils connaissaient pas les gens ne connaissaient pas tellement la marque parce qu'elle ne communiquait pas hors du Japon. Et c'était une époque, il faut se le rappeler, où il n'y avait pas Instagram. Donc du coup, ça n'existerait pas. Une marque au Japon, si une marque est super cool au Japon, on va la connaître. Grâce à Instagram ou d'autres social media ou d'autres informations qui circulent plus rapidement. Donc on a commencé à travailler ensemble avec Sakai et à la faire connaître en Europe et c'était génial parce que c'est vraiment, je me rappelle le premier showroom, on suppliait les gens de venir et puis après ça a grandi mais d'une manière très graduelle, très intelligente jusqu'à la très belle marque que c'est devenu.
Comment on s'improvise attaché de presse quand on n'est pas passé soi-même par un bureau d'attaché de presse?
Alors ça, bizarrement, ça ne m'a jamais fait peur.
Ouais.
En fait, j'ai pensé rétroactivement que pourquoi ça avait bien marché pour moi, c'est parce que j'avais jamais été attaché de presse. Et que du coup, comme je suis arrivé dans cet univers, j'ai parlé d'une manière très normale, très, quand j'avais quelque chose à expliquer sur un client, j'ai essayé de l'expliquer, comme on se serait expliqué dans le monde réel et pas dans le monde de la communication. Ouais. Du coup, je trouve que ça, j'ai pensé après que c'est ça qui avait marché parce que j'avais une sorte de fraîcheur.
Et ça faisait envie.
Ouais. Et je pense pas que c'est un métier où on a besoin d'études. Je pense même que les études sont contre-productives. Il faut faire un stage, il faut se débrouiller pour avoir un stage, se faire remarquer.
Pour l'attaché de presse ou dans la mode en général?
Dans l'attaché de presse.
Ouais.
Parce que je vois pas comment on peut apprendre ce job. Je vois pas ce qu'on peut apprendre. Déjà, il faut bien parler anglais, donc c'est mieux de faire une école d'anglais, à mon avis, que de s'attacher de presse.
Ouais. Parce que grosso modo,
il faut savoir faire des PDF, et des listes.
D'accord.
Mais c'est pas, enfin, attaché de presse, je pense pas que ça puisse s'apprendre à l'école.
Ouais. C'est quoi votre définition d'attaché de presse, d'ailleurs?
Pendant longtemps, c'était le lien entre la presse et les créateurs et les maisons.
Ouais.
Mais c'est complètement en train de changer. Donc, la définition évolue. Mm. Je pense que maintenant, on devient plus une espèce d'agence de networking, de solutions, de mise, de stratégie de communication. Mm. À la fois avec la presse qui devient un peu plus faible. On a dû changer, donc évidemment on a changé vers le monde digital, les influenceurs, tout ce qu'on veut, qui a l'air de fasciner beaucoup les gens. Ils mettent toujours ça en opposition, mais pour moi ce n'est pas une opposition, c'est le même travail. Mais par contre, notre travail devient beaucoup plus complet, beaucoup plus. On peut pas rester juste attaché de presse comme ça, vouloir faire un papier dans un magazine. C'est plus ça du tout.
Ouais, c'est plus maintenant une agence de
mais
com.
On doit toujours faire des papiers dans les magazines, ouais. Par contre, parce qu'il faut pas se tromper non plus. On peut pas tout jeter en disant on est dans le futur, dans la modernité. Il faut aussi être dans le présent. Et le présent, c'est aussi encore la presse classique mélangée à le digital, mélangé aux relations avec les magasins, ouais. Mélangé aux relations avec les célébrités, c'est un tout.
Ouais. Il y a une question que je me pose toujours, c'est alors vous, je pense que vous avez un don pour vous faire un réseau et vous faire des connaissances. Comment on développe un réseau?
Moi, bizarrement, je me vois pas comme ça en fait.
Ouais.
Parce que je suis quelqu'un d'hyper casanier. Je suis pas quelqu'un qui va sortir pour rencontrer des gens.
Ah ouais.
Ouais. J'ai jamais fait ça de ma vie. Je suis toujours sorti pour travailler en fait. J'aime pas sortir. Après, je dois peut-être être sympathique, donc les gens créer du lien, de la sympathie autour de moi. Mais je n'ai jamais fait, j'ai jamais été à une soirée avec mes cartes de visite et tout ça. Je veux dire, j'ai jamais fait ça en fait. J'ai toujours pensé, et d'ailleurs c'est un truc bizarre, j'aime rencontrer les gens dans le cadre du travail. Je n'aime pas les rencontrer dans un cadre social en fait. Je trouve que ça simplifie les rapports. Quand on rencontre quelqu'un pour le travail, je trouve qu'on sait de quoi on parle en fait. On se rencontre, chacun a besoin de quelque chose ou pas. Mais il y a une base assez saine en fait. J'aime pas quand on commence à faire les amis pour obtenir quelque chose de quelqu'un en fait. Donc je dois être bon en réseau, mais d'une manière qui est pas si social en fait. Et j'ai des relations assez vraies avec les gens en fait. J'ai pas de. Par contre, j'ai un truc où j'aime les gens en fait. Je sais aimer les gens. C'est-à-dire même si au début il y a certaines personnes, je dis ah là là, il a l'air ci, il a l'air ça, mais je vais trouver en la personne quelque chose qui va me plaire et je vais construire ma relation sur cette base-là et pas sur la base qui aurait pu me. Enfin, je sais pas comment expliquer. Je suis pas dans la séduction, je suis plutôt dans l'empathie.
Comment on arrive à convaincre des grosses marques, enfin vous avez comme client par exemple APC.
APC, on travaille pour Saint-Laurent, on travaille pour Louis V, maintenant on travaille pour Net-à-Porter,
ouais, des gens comme ça. Et en 2006, quand vous créez votre bureau d'attaché de presse, comment vous arrivez à aller chercher des marques qui ont déjà 20 ans, 30 ans, 50 ans d'expérience?
Je les ai pas eu tout de suite, ça, par contre c'est assez récent. D'abord, j'ai jamais fait de prospection.
C'est toujours venu à vous.
c'était une posture ou une stratégie, je sais pas. D'abord, c'est drôle parce que je suis passé là au Vogue Fashion Festival et j'ai eu ce genre de questions. Et donc, du coup, je les ai bien en tête. Par exemple, l'idée que je n'ai pas de site internet, par exemple. Pourquoi j'ai pas de site internet?
Pourquoi?
Parce que. Il y a juste une page avec nos contacts. Oui. Donc, ça perturbe beaucoup les gens et ça perturbe notamment beaucoup ces grandes marques. Parce qu'elles ne comprennent pas. Ce n'est pas possible pour eux qu'en 2018, on n'ait pas un site internet, qu'on ait une agence de communication. Pour moi, d'abord, pourquoi avoir un site? Pour moi, c'est pour. Pourquoi les gens ont des sites? C'est pour montrer leur travail et avoir plus de clients, en général. Moi, plus de clients, ça me stresse. Donc, déjà, je ne suis pas dans une démarche proactive parce que. Juste l'idée d'avoir plus de clients m'angoisse profondément parce qu'il y a des gens qui verraient ça comme genre « Ah, c'est le succès, plus de clients ». Moi, je vois ça comme « Il va falloir être bon, délivrer des résultats et rien que ça, l'idée m'angoisse déjà à l'avance. Donc je ne suis pas dans la prospection, donc je n'avais pas besoin de ce site pour la prospection. Et je n'avais pas envie d'exposer tout notre travail comme ça pour des gens qui veulent cliquer, voir ce qu'on fait. Bon, maintenant, on a l'Instagram, mais oui. Je trouve ça plus intéressant parce que l'Instagram est visuel. On poste les soirées, on reposte les célébrités, on poste les influenceurs, on poste les très belles parutions de presse. On peut remercier au travers de ça les photographes, les stylistes, les magazines qui soutiennent les marques. Donc ça m'intéresse et si quelqu'un veut... Voilà.
Mais c'est un vrai échange, quoi.
Ouais. Mais donc, du coup, pour en revenir à la question sur les grandes marques, je pense que les grandes marques, elles cherchent toujours des attachés de presse, donc elles finiront toujours par essayer des nouveaux attachés de presse. Donc, c'est pas difficile de les avoir à une fois ou deux. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est de les garder. Mm-hmm. Donc,
parce qu'en général, ça fonctionne comment on part sur un contrat de quoi d'une saison, deux saisons, trois saisons
Ça dépend. Alors, c'est vraiment complètement à tiroir. Ouais. Comme nous, on travaille pour des gens mondialement, on travaille pour des gens que pour la France, on travaille pour des gens que Europe. On a même des contrats où on a Europe, sauf UK, sauf Spain, enfin des trucs. C'est vraiment à la carte. Ouais. Donc, les la durée des contrats aussi.
Il vous arrive de refuser des clients ?
Tous les jours. C'est normal. On a une notoriété, on est basé à Paris où tout le monde veut avoir un bureau de presse, donc forcément on nous contacte.
Comment vous choisissez vos clients alors ?
Je les choisis. Ça dépend aussi, ça a évolué. Mes critères ont évolué, mais en général, il y a il y a un truc sur lequel je ne déroge pas, c'est je dois être sûr que je serais fier de représenter cette marque. Pour des raisons créatives, pour des raisons de goût, pour des raisons commerciales, je dois être sûr que je peux appeler quelqu'un et lui dire c'est bien. Ça, c'est la preuve. Parce que je pourrais pas appeler quelqu'un et lui dire c'est génial alors que je pense que c'est de la merde. Franchement, je pourrais pas le faire. Mais pas par tellement je suis bien et tellement je suis radical dans mes choix. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est juste que c'est pas la façon dont je conçois mon travail et c'est pas le lien que j'ai avec la presse. C'est-à-dire, de la même manière, on ne demande pas à des gens pour qui ce n'est pas le style de venir à un truc. J'essaye, mais c'est difficile parce que maintenant on est beaucoup, il y a beaucoup de gens qui travaillent ici, ils peuvent être des fois un peu systématiques. C'est très difficile de mettre de l'humain tout le temps partout.
Comment on fait d'ailleurs ça quand on a autant de collaborateurs maintenant pour transmettre cette ADN ?
Déjà, je suis très disponible pour eux. Donc du coup, et je leur dis tout le temps, si tu as le moindre doute sur un truc, demande-moi. Et si tu vois que je ne te réponds pas, texte-moi. Enfin, genre, je veux être totalement disponible pour qu'on puisse échanger. Comme ça, s'ils ne sont pas trop bêtes, quand on échange, ils comprennent la façon dont je travaille et dans la façon dont je pense. Et ils peuvent être aiguillés dans leur prochain choix. Donc c'est plus de l'échange, c'est vraiment de l'échange.
Et comment vous les choisissez ?
Les collaborateurs ?
Ouais.
Y en a qui demandent, il y en a qui viennent, et puis il y en a d'autres dont on me parle. En général, je ne fais pas je fais pas appel à des chasseurs de tête. C'est un milieu qui est tout petit, donc on sait un peu qui est bien à Paris, par exemple.
C'est vrai qu'on fait vite le tour.
Donc voilà, et on sait. Après, c'est que je préfère créer notre propre richesse, c'est-à-dire je préfère engager des stagiaires qui deviennent assistants, des assistants qui deviennent PR, parce que c'est notre propre richesse, et au moins... on fonctionne dans un état d'esprit et dans une philosophie qui correspond au bureau. Parce qu'il faut que mon challenge, c'est de grandir tout en donnant le même service et la même et avec la même philosophie. C'est ça le challenge, parce que quand on devient plus grand, forcément, c'est plus compliqué de maintenir une chose personnelle et particulière. Et surtout dans un monde qui devient de plus en plus corporate. Puis les gens sont assez fascinés par le côté corporate aussi.
Qu'est-ce que vous entendez ça ? Qu'est-ce que vous entendez par corporate ?
Le côté très organisé, effectif, reporting. Moi, je ne fais pas ça parce que ce n'est pas mon client. Vous voyez ce que je veux dire ? Tout ce qui est très cadré.
Ça vient de quoi, ça ?
C'est le monde qui est comme ça, parce que le monde est efficace.
D'accord.
Donc on est dans un souci d'efficacité, on n'est pas dans un souci d'humanité.
D'artisanat et d'humanité.
Ou alors on va organiser l'artisanat pour qu'il devienne efficace. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est comme des fois, je vois des marques qui viennent vers nous parce qu'on est supposé être plus cool ou être plus humains, où ils veulent, ils sont un peu fascinés par ce côté-là. Mais après, ils veulent qu'on fasse du corporate. Et ça, ça marche pas. Soit tu viens chez nous. J'ai eu un rendez-vous justement avec un grand client. Et il y avait une fille dans l'équipe qui disait, oui, est-ce que vous faites bien les reportings? Et puis sa chef l'a coupé, elle a dit, non, mais si on vient dans ce bureau-là, c'est pas pour ça. Et j'ai trouvé ça ultra brillant. Parce que je me suis dit, tiens, elle a compris que c'était pas... Que bien sûr, on va le faire, mais c'est pas ça pourquoi ils viennent.
Et c'est quoi la touch, alors, Lucien Pagès?
Alors, ça, c'est pas à moi de le dire. Je sais pas, enfin... Ce que j'entends souvent, c'est qu'est-ce qu'on entend souvent? Je pense que c'est le résultat de cette histoire, en fait. C'est cette histoire. Je pense que les designers, par exemple, sentent qu'on les aime beaucoup. Moi, j'attribue ça au fait que je suis un designer frustré ou raté ou je sais pas quoi. Du coup, j'ai une espèce de fascination pour la création. Je veux dire, je suis le premier client de mes designers, c'est-à-dire pas en termes de vêtements, je peux en acheter bien sûr, mais c'est pas ça. Je veux dire, je suis toujours, chaque saison, je suis hyper excité de voir qu'est-ce qu'ils vont faire. Je suis excité de voir ce que va faire Anthony Vaccarello à la Tour Eiffel. Je suis excité de voir ce que va faire Christelle Cochet au Parti communiste. Je suis excité de voir comment Glossier va s'introduire en France. Je suis excité. J'ai cette espèce de fascination pour la création, le luxe, la mode. Donc, je pense que les gens le sentent. Donc, c'est un truc, mais c'est quelque chose qui est un peu...
Qui transpire, ouais.
Qui transpire. Du coup, je pense qu'ils sont en confiance. Et puis de l'autre côté, la presse, je pense qu'ils savent qu'on les respecte, ils savent qu'on les prend pas pour des débiles, qu'on va pas leur essayer de leur vendre des trucs qui sont pas pour eux. C'est une relation de confiance, je pense que c'est ça. C'est plus, c'est très. J'essaye que voilà de faire un truc très personnel dans un monde qui est totalement pas personnel, et autant que je peux.
Vous intervenez au niveau de la création aussi avec vos clients.
Non. Ça peut être la création de contenu, on les conseille, mais on fait pas de création nous-mêmes.
Mais ça ressemble à quoi alors justement une conversation avec un client? Juste avant, vous étiez avec une créatrice. On parle de quoi quand
ben
on
là, est par exemple, presse. Typiquement, elle m'exposait des projets qu'elle a, de collaboration, des idées qu'elle a eues par rapport à des grosses collaborations qui vont arriver dans l'année. Et du coup, on était un peu stratégique, genre fais attention, peut-être fais pas ça à ce moment-là. Regarde, mais j'ai aussi ce projet. Enfin, c'est plus discuter de tout ce qui se passe et de voir comment on le planifie dans le temps, de manière à ce que ce soit pas envahissant pour la presse, à ce que ça soit efficace pour la collab, à ce que ça soit voilà, c'est plus une discussion ouverte sur des trucs. Mais ça peut être des fois présenter des gens qui vont déclencher des choses. Ça peut être comme j'ai dit, il y a une grosse partie de networking. Donc c'est
coup de mise en relation.
Ouais. Et une conversation. Mais les conversations avec les designers sont toutes différentes. Aucun n'a les mêmes problèmes. Des fois, ils ont tous les mêmes problèmes. Par exemple, l'Instagram. Ah, mon Instagram, qu'est-ce que je peux faire? C'est le nouveau problème. Et moi, en plus, je pense qu'un Instagram doit être personnel. Donc, c'est hyper compliqué parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas ça. C'est pas leur génération ou c'est pas leur truc. Et quand on dit à quelqu'un que la solution, c'est qu'il soit personnel, il est perdu parce qu'il a aucune envie de faire ça. Donc, mais après. Voilà, personne n'est au même stade de sa carrière, personne n'est au même stade de sa créativité, de son développement. Mais après, il y a des problématiques de fond. Donc nous, comme on les entend depuis, peut-être ça fait 12 ans que j'ai ce bureau, ça fait 12 ans que j'entends des problématiques de designer.
Qui sont les mêmes depuis 12 ans.
Ouais. Donc du coup, on a des exemples, des solutions si possible. En tout cas, on peut aiguiller des trucs. Ouais.
Quand vous rentrez une nouvelle marque à chaque fois, est-ce que vous avez un process? C'est hyper corporé de dire ça. Non, mais est-ce que vous avez, je sais pas, une grille d'analyse de dire, ok, il faut que tu, enfin, je regarde ça, ça, ça.
Déjà,
et ça,
par contre, il y a une question que je pose. C'est où ils sont distribués. Parce que j'ai envie de représenter des marques qui existent, même si elles existent à petite échelle, que l'on sente qu'elles sont réelles. Après, pour les grandes marques, c'est plus vraiment si je me sens à l'aise dans l'histoire, si je sens qu'on va vraiment... Il m'est arrivé de refuser deux fois une marque que j'adore, mais les conditions faisaient que je savais que ça ne se passerait pas bien. Enfin, Et ça, c'est très douloureux, en fait, parce que c'était vraiment...
C'est une question de personne aussi, non ?
Il y a des choses plus douloureuses dans la vie. Mais c'est de dire non à un truc qu'on aime.
Ouais. Mais c'est une histoire de personne. C'est que
c'était une histoire de personne, en gros, et aussi d'attente qui ne fitait pas, je pense.
Ouais.
Mais il n'y a pas de process. Par contre, j'aime qu'on me donne le temps. Et quand quelqu'un vient et me dit « Ouais, mon attaché de presse, ça va pas du tout. » Déjà, c'est, j'aime moyen parce que je sais à quel point c'est difficile d'obtenir des résultats. Et il faut que j'ai quelqu'un dans un mois. Et ça marche pas avec moi parce que je déteste être...
mis sous pression.
Ouais, ouais, ou contre un mur.
Ouais. Devant le fait accompli. Ouais.
Ouais. Donc du coup, moi, il me faut du temps. Il faut qu'on se voit plusieurs fois. Ça, c'est les process. Il faut qu'on se voit plusieurs fois. Et ça grandit en moi, j'ai des idées. Et
Ouais, c'est organique comme truc, comme un créateur. Mais
voilà, si quelqu'un vient et me dit il me faut une réponse demain, je dois avoir quelqu'un dans un mois.
Vous savez pas faire, ouais, c'est pas possible.
Après, voilà, c'est rigolo parce que des fois j'ai des loupés et qui après se passent très bien, mais au début je loupe, il y a des marques, j'ai même pas été au rendez-vous. Il y a des gens hyper importants, j'ai même pas répondu. Enfin, c'est. Et après, bizarrement, ça se fait quand même. Et voilà, mais je le fais pas par méchanceté ou par désorganisation, c'est juste que j'ai tellement de mails et de trucs de choses à répondre que je, des fois il peut m'arriver de si je réponds pas tout de suite de zapper, mais c'est pas par méchanceté, c'est vraiment et je sais que c'est pas sympa mais et j'aime pas ça non plus parce que j'aime pas qu'on me réponde pas. Mais c'est des fois, c'est humainement pas possible. Voilà.
Comment, enfin, ça ressemble à quoi d'ailleurs vos journées ?
Bah, elles sont toutes un peu différentes, toutes un peu pareilles. Ça dépend. Là, par exemple, en ce moment, je suis beaucoup à Paris, ce qui m'arrive assez rarement. J'ai beaucoup plus voyagé là. Entre l'année dernière, je voyageais tout le temps. Là, j'ai pris plus de temps à Paris. Donc, du coup, mes journées, c'est commencé comme ce matin, genre assez tôt avec un rendez-vous. Et puis après, j'enchaîne des rendez-vous, des coups de fil. J'essaye de répondre le plus aux mails entre-temps. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, si ça dure longtemps, il faudra que je puisse m'arrêter un moment pour répondre à des mails. Juste parce que je ne veux pas les accumuler et qu'il y a des gens qui attendent des réponses urgentes, qui peuvent bloquer des processus de pour avancer. Parce qu'évidemment, tout est urgent, même si rien n'est urgent. Et voilà, j'ai des déjeuners là, par exemple. C'est même ridicule parce que j'ai des déjeuners depuis un mois et jusqu'à Noël tous les jours. C'est-à-dire que je ne peux même pas caser un déjeuner. Là, je devais déjeuner avec quelqu'un, une personne avec qui on travaille. On lui a proposé 3 dates. Elle n'a pas répondu tout de suite. Bah, du coup, il reste plus qu'une date.
Ouais. Voilà.
Enfin, et je ne peux pas dire réponds vite parce que ça va être pris. C'est pas possible, c'est pas sympa.
Mais c'est des déjeuners de travail, vraiment.
Ouais.
Toujours.
Bah, c'est toujours dans mon travail, tout est mélangé. C'est des travail amical. C'est le temps de se poser avec quelqu'un. On parle pas que de travail. C'est drôle parce que des fois, moi, j'aime bien faire ces déjeuners et ne rien avoir à vendre. Genre. De parler de
tout et de rien.
Ouais.
De la vie.
Du coup, il y a des gens qui me disent mais qu'est-ce qu'on peut faire pour toi, dis-nous, et tout ça. Genre, ils sont très perturbés parce que je demande rien. Et puis, je dis non, mais je travaille bien avec vos équipes, ça va. Il n'y a pas de. Enfin, du moment que je travaille bien, enfin, voilà.
On a peut-être un secret, là.
Hmm?
On a peut-être un secret. Tout à l'heure, je vous demandais comment on fait son réseau, comment on entretient son réseau. C'est peut-être ne rien demander, rien attendre.
Ouais, mais bon, ça peut être très contre-productif.
Non, pas toujours.
Enfin, je sais pas. Il faut, faut être le plus soi-même, en fait. Ouais. C'est le seul secret. On ne peut pas copier les recettes des autres.
Tracer son propre chemin.
Ouais, et les gens, ils veulent voir des personnalités. Ils veulent. Moi, je suis comme ça. Michel Montagne, elle est autrement. Carla Auto, elle est autrement. Enfin, je veux dire, c'est pas. C'est que des. Enfin, je prends des exemples complètement absurdes. Mais ce que je veux dire. Je pense que voilà. Et puis, comme moi, j'ai pas envie des clients de. Je sais pas comment dire. Robin. Vous voyez ce que je veux dire ? Robin, je trouve qu'elle fait un super travail. Mais elle a son truc à elle, et moi j'ai mon truc à moi. Enfin, je veux dire, et pourquoi ça marche pour elle, et pourquoi ça marche pour moi, ou c'est parce que je pense qu'on est nous-mêmes. Comme je pense qu'une Michèle Montaigne était elle-même et qu'elle a... Enfin, je prends des exemples de PR, hein, parce que c'est plus simple de comparer, mais même si pour moi, c'est pas comparable. Mais c'est-à-dire que je trouve qu'il y a tellement de marques et tellement de... maintenant c'est de voilà, tout le monde peut trouver son truc et son fit parfait avec son agence de com, en fait. Il y a pas, pour moi c'est pour ça que je considère pas les autres bureaux comme concurrents, parce que si les choses sont bien faites, les marques doivent se diriger vers les bureaux qui leur correspondent. C'est plus ça, c'est une question de fit, et c'est parce que moi il y a des marques très belles peut-être qui ne marcheraient pas chez moi. Je pense par exemple, quelqu'un, si moi j'avais eu vêtements, ça n'aurait pas fait ce que ça a devenu. Je pense, vous voyez ce que je veux dire.
Ouais, je comprends.
C'est pas.
Parce que c'est pas vous.
C'est pas vous. C'est pas moi.
Comment vous faites attention toujours quand vous choisissez vos clients de faire en sorte qu'ils ne se cannibalisent pas les uns les autres.
Ouais, bien sûr. Déjà, je prends jamais des gens qui sont frontalement concurrents.
Ouais.
C'est impossible. C'est pas gérable. Et puis j'essaye d'avoir des catégories. Genre, je sais pas, si je prends une très belle marque de lunettes, je vais pas en prendre une autre. Si je prends une très belle marque de chaussures, je vais pas en prendre une autre. Par contre, on peut avoir des chaussures plus masculines comme Adieu et des chaussures plus féminines comme Francesco Rosso. Il n'y a pas de concurrence. Ou John Lobb, qui est encore autre chose, qui est une marque héritage. Il n'y a pas de concurrence. Ouais. J'essaye que... moi, je me vois un peu comme un curateur, en fait. J'ai toujours construit ce bureau. Je regarde, je me dis, tiens, j'ai ça. Est-ce que ça rentre chez nous? Est-ce que ça marche avec nous? Et est-ce que ça se est commencé par rapport aux autres? Et si c'est vertueux, si je sais qu'on peut en faire quelque chose, alors je ferai le projet. Par exemple, je prends l'exemple de récemment, je prends une marque qui est plus commercial, mais dans un bon sens, et je me disais, il me manque une belle marque commerciale, en fait. Je trouvais dans mon truc, et j'ai trouvé, et parce qu'il y avait une âme, et donc évidemment ça dépote en termes de vente, c'est très ambitieux, et des ouvertures de boutique et tout ça, mais j'aime l'histoire, j'aime les gens, je me sens à l'aise dans cette histoire, et je cherchais ça depuis un moment. Par exemple, donc je réfléchis quand même à des choses qui me manquent.
Il faut que ça soit à la fois cohérent et complet.
Mais ça peut aller sur des choses qui sont plus nouvelles. Je ne suis pas du tout fermé.
Mais c'est un peu un travail de galeriste, non? De trouver des artistes et...
Ouais, absolument. Je trouve que c'est... Et je suis content, par exemple, quand on a fait le projet de Colette, où Sarah m'a invité et que j'étais d'abord ultra surpris. Donc Sarah de chez Colette allait fermer Colette, mais on ne le savait pas. Et elle a fait un coup d'éclat génial d'inviter, je crois, 6 marques, dont moi qui ne suis pas une marque, avec un mois chacun, un takeover de Colette du premier étage. Et moi, j'ai fait le mois d'août sur le thème des vacances, mes vacances. Donc c'était complètement absurde. Et je pouvais curater complètement là, du coup. Travailler avec les marques, faire des projets spéciaux, inviter mes amis comme M&M Paris ou Michel Gobert, Peter Phillips pour Dior. Et j'ai adoré faire ce projet, mais j'avoue que la première fois que Sarah me l'a proposé, c'est une histoire que j'ai beaucoup racontée parce que c'est un peu la storytelling de cet événement, mais c'est la vérité. Elle m'a envoyé un texto et elle m'a dit j'ai une idée démente, il faut qu'on se voit vite, Et j'ai été la voir. Et elle me dit, j'aimerais que tu fasses le mois d'août avec toutes tes marques et tout ça. Et au début, j'ai vraiment été réticent parce que je me suis dit, c'est pas mon job, enfin, c'est pas mon rôle. Moi, je suis un peu dans l'ombre. Est-ce que mes marques vont comprendre? Certaines marques n'étaient même pas chez Colette, donc elles allaient rentrer chez Colette grâce à moi, juste parce qu'elles sont dans mon bureau de presse. Donc, c'était un peu bizarre. Et je voulais pas avoir ce rôle trop éclatant, parce que je me disais ça va m'attirer plus de problèmes que de... Bien sûr, c'est satisfaisant pour l'ego, mais je me disais ça va m'attirer plus de problèmes que de... Que de... que de bonheur. Et en fait, j'ai réfléchi, j'ai passé le week-end dessus, et puis je me suis dit, j'ai fait cette analyse, que tout changeait tellement dans la mode, que dans la communication, et que Sarah me proposait, me donnait l'occasion de faire une chose qui n'avait jamais été faite, un bureau de presse qui avait son propre magasin multimarque, où comme quand nous on fait nos showrooms ou nos press day, et les gens arrivent, et comme s'ils pouvaient tout acheter. Et ça nous est souvent arrivé, par exemple à New York, on fait des press day depuis très longtemps, parce qu'on représente beaucoup de marques sur le territoire américain. Et des fois, comme c'est au rez-de-chaussée avec des vitrines, plein de gens entrent et croient que c'est un magasin. Et je me suis dit, en fait, c'est ça, c'est la même chose, sauf que ça va être chez Colette. Et du coup, je me suis dit, je ne peux pas passer à côté de ça. C'est une opportunité géniale de participer aux frontières qui se déplacent, en fait. Et voilà, donc j'ai adoré faire ça, et d'un coup j'ai eu l'impression que les gens réalisaient justement qu'on était curator, parce que en voyant toutes ces marques, elles n'avaient rien à voir les unes avec les autres et tout fonctionnait. En fait, c'est comme si tout allait dans un sens, mais elles étaient toutes différentes.
Mais ça donnait un ensemble hyper cohérent.
Donc j'étais hyper content de moi de ça, en fait, et aussi que les gens le reconnaissent pour un truc qui était pour moi d'une évidence. Même les gens dans le bureau n'avait même pas capté tellement. En fait, c'est bizarre. En fait, il faut que ça passe par l'extérieur, que ça soit montré d'une manière réelle, enfin concrète, pour que les mots aillent bien avec le concept. Voilà.
Vous parlez de frontières qui se déplacent. C'est quoi votre pronostic pour la suite des événements dans l'industrie de la mode?
Là, on est tellement à un moment charnière. Bien sûr que de plus en plus, le digital va prendre le dessus, le virtuel. Mais c'est intéressant, comme même les marques, les grandes enseignes de vente en ligne ont besoin d'espace physique aussi. Ou comme en fait, rien ne remplace l'expérience. Et on n'est quand même toujours pas des robots. Donc effectivement, on va essayer de nous robotiser à mort avec des algorithmes et en nous proposant des produits qu'on est censé aimer. Mais je pense que l'être humain est fondamentalement rebelle. Donc on va marcher sur deux jambes. Effectivement, on vit avec un téléphone. On peut tout faire avec un téléphone. On peut rester chez soi en regardant Netflix, en commandant du Deliveroo et en commandant du Net-à-Porter. Mais à un moment, on va s'ennuyer. On va vouloir retourner au restaurant, retourner dans les magasins. Et ça sera un mélange des deux, je pense. Mais l'industrie, sous son aspect économique, est fondamentalement chamboulée. Mais voilà, mais c'est comme tout, on vit une époque qui change très vite et il faut essayer de laisser l'adaptation, c'est notre truc d'adaptation. Donc je pense que la mode va... Et je pense qu'en fait, ma grosse prédiction, si j'étais Madame Soleil ou Madame Irma, ce serait qu'il va y avoir le monde complètement de la masse, avec des prix défiant toute concurrence, et il y aura le monde de la niche. Avec des magazines de niche, des marques de niche, mais la niche sera aussi économiquement rentable parce qu'elle va toucher des gens qui ne voudront pas rentrer qui auront des aspérités différentes du monde de masse. Donc, je pense qu'il y a un avenir pour la niche, mais la masse sera toujours là, en fait. Je pense que c'est comme tout. C'est un peu comme middle class et tout ça. C'est des trucs qui sont plus fragilisés, le truc entre les deux, c'est un peu on va aller peut-être plus vers des choses comme ça, un peu plus, c'est-à-dire des choses de grande qualité, très rares. C'est comme les magazines, à mon avis, vont devenir beaucoup plus, tout le monde le dit un petit peu, que les magazines ne vont pas disparaître, mais vont devenir beaucoup plus comme des livres, beaucoup plus beaux, beaucoup plus spéciaux, et qu'on verra les news sur nos téléphones. Donc, voilà, c'est plus des choses comme ça, mais les choses rares, belles, tout ça ne vont pas disparaître. Et je pense que la niche va devenir économiquement rentable. Alors qu'avant, on essayait toujours de concilier un peu les deux.
Ouais, parce qu'aujourd'hui, quand t'es un jeune créateur, moi, j'interview beaucoup de jeunes créateurs, jeunes entrepreneurs, t'as le sentiment que soit ils vont d'un côté, ils se mettent en mode digital native, vertical brands, on coupe tous les intermédiaires, on se met plutôt en mode masse. Et d'un autre côté, t'as des jeunes créatifs qui sont ouais très pointus et qui mais qui galèrent vachement quoi. Et aujourd'hui j'ai le sentiment que comme si tout le monde voulait passer en digital native vertical brands quoi.
Oui. Bah oui parce que c'est la solution et puis c'est aussi moi ce que j'ai dit l'autre fois là quand j'étais interviewé au Fashion Festival, c'est que c'est quand même une chance aussi pour les jeunes. Avant, on n'avait pas Instagram. Et, bon, je parle surtout d'Instagram parce que c'est notre truc à nous. De
c'est la mode,
c'est visuel. C'est, mais on a, ou, voilà, et où les gens qui se font connaître sur YouTube ou je ne sais pas quoi. Ou, enfin bon, ça n'existait pas avant. Donc, du coup, on était obligé de passer, les gens étaient obligés de passer par les canaux super classiques. Là, c'est une sorte de révolution et de démocratisation. On peut s'adresser directement aux gens. Ça crée beaucoup de liens, ça crée de l'engagement, ça crée quelqu'un. Donc forcément, oui, les gens pensent plus dans cet esprit-là parce que évidemment, c'est offert, c'est beaucoup plus facile. Ça ne veut pas dire que c'est facile. Le problème, c'est que comme c'est facile pour tout le monde, c'est du coup,
il y a beaucoup de monde.
Voilà, il y a beaucoup de monde. C'est comme les gens disent, ah, je vais faire un site de vente en ligne, mais. C'est ultra compliqué de rentabiliser un site de vente en ligne parce que le temps que les gens quand nous on fait de la presse ils ouvrent son site de vente en ligne ok on va avoir quelques papiers, les gens vont cliquer sur le lien okay, alors combien de gens vont cliquer sur le lien, combien de gens vont être attirés par le site et aller regarder les produits, combien de gens vont cliquer, combien de gens vont faire l'acte d'achat. Ça va être entre le nombre de gens qui vont avoir accès à l'information et ceux qui vont acheter, ça va être, il y a tellement d'étapes. Donc, un site de vente en ligne fonctionne, à mon avis, que quand l'engagement et le suivi d'une marque est déjà très, très énorme. Donc, un site comme Jacquemus, quand il le lance, cartonne. Mais il le lance, il a déjà tellement de followers, tellement de notoriété, tellement de... Ça fonctionne. Mais c'est pas juste parce qu'on lance un site. Je veux dire, c'est très dur, c'est difficile de trouver un website. Maintenant, c'est plus facile de trouver un Instagram. Enfin, moi, je check pas les websites tellement.
Bah non. Non, la première chose qu'on fait en général, c'est on check l'Instagram de la personne ou de la marque.
Instagram, hein. Où je Google les gens ou les marques.
Ouais.
Je les Google. Donc évidemment, je vais tomber sur leur site. Mais c'est peut-être pas ça qui m'intéresse directement. Parce que je sais qu'il va être assez formaté. Je vais pas apprendre grand-chose. Il va y avoir About. Je vais lire un texte absurde.
C'est vrai.
J'en apprends. Donc voilà, donc oui, c'est une chance pour les jeunes, pour les marques. Et il y a des énormes exemples de succès de marques qui se sont réalisées grâce aux réseaux sociaux. Mais je pense qu'elles, voilà, il faut être très fort, très préparé. C'est pas donné à tout le monde. Mais c'est pas facile. C'est pas parce que ça existe dans le monde virtuel que tout le monde le voit. C'est pas vrai. Il faut des canaux pour arriver jusqu'à tout ça.
Comment on te prépare d'ailleurs à devenir créateur entrepreneur? Vous en côtoyez énormément. On parlait de Chitose Abbé tout à l'heure, de Simon Porte-Jacquemus, de Christelle Cochet, etc. C'est des gens, on leur demande tellement aujourd'hui d'être à la fois sympa avec les journalistes.
C'est difficile pour eux, hein, ils sont de la pression. On leur demande énormément. Donc il faut être bon en créativité, avoir une vision marketing, être bon avec la presse, être sympa, être un bon manager, avoir des idées visuelles, être spécial. Et à la fois toujours cette espèce de quête absurde de se renouveler tout en étant soi-même, le grand challenge des créateurs. Et ça, moi je les envie pas pour ça parce que quelle angoisse. Je vois à un moment, je vois quand la presse commence à se désintéresser. Je parle de la presse hein, classique parce que c'est le premier truc qui vient souvent parce qu'il y a les reviews, les trucs. Et je vois, il dit ah quand ça bouge pas assez. Mais dès que ça bouge trop, il est plus lui-même. Donc
Mais comment on trouve le juste équilibre alors? Comment on trouve le juste équilibre?
Bah peut-être c'est une espèce de sélection naturelle. C'est comme dans la forêt. Il y a ceux qui vont survivre. Je sais pas comment. C'est.
Et ceux qui durent longtemps.
Enfin, il faut être bon. Qu'est-ce que je peux dire? Enfin. Non, mais c'est horrible. Mais.
Mais il y a des points communs entre les gens qui durent longtemps et ceux qui.
Enfin. Bah, je pense que les gens qui durent longtemps. Je pense par exemple quelqu'un comme Karl Lagerfeld. C'est quelqu'un qui s'est toujours remué. C'est quelqu'un qui adore les jeunes, qui regarde qu'est-ce qui se passe, qui s'est toujours nourri, qui s'est toujours entouré, qui ne. Enfin voilà. Moi, je pense que c'est la mode. C'est le mouvement. Quelqu'un qui n'est plus dans le mouvement et quelqu'un qui est en train de perdre le truc. Dans le mouvement, ça ne veut pas dire d'être hystérique et de bouger tout le temps, mais de comprendre tout ce qui se passe. C'est, ouais. Mais j'avoue que c'est compliqué, parce que même moi, je dois être dans le mouvement, et des fois, on s'embourgeoise, on a envie de moins se faire de trucs, on aime bien regarder toujours les mêmes trucs, aller dîner avec les mêmes gens. Mmh. Et à un moment, on peut perdre le truc. Hein.
Mmh. Et comment vous nourrissez, d'ailleurs, justement ?
Déjà, d'avoir une équipe jeune. Je demande toujours aux jeunes leur avis, des listes, des trucs. J'ai préparé le Vogue Fashion Festival avec les stagiaires. Mm. Parce que ça m'intéresse. Parce que je savais qu'on allait me poser plein de questions sur les réseaux sociaux. J'avais envie de voir comment eux, ils le vivaient. Mm. J'avais envie d'avoir leurs idées à eux. Parce que on parle toujours des millénials. Alors autant demander à des millénials. Ah ouais. Qu'est-ce qu'ils aiment ?
Qu'est-ce qu'ils aiment alors ?
Le problème, c'est qu'ils n'aiment pas tous la même chose. Hein. Ils sont comme nous. On les met dans une catégorie, mais ils sont tous très différents. Ouais. Donc, et ils sont ce qui est assez drôle, c'est qu'ils ont des goûts assez vieux, je trouve.
Ah ouais ?
Ouais. Parce qu'ils sont décontractés avec les trucs vieux. Donc, du coup, ils peuvent aimer les trucs vieux. Mm. Parce que nous, si on aime les trucs vieux, on est vieux.
Ouais.
Mais quand les jeunes aiment les trucs vieux, c'est cool. C'est plus ça, l'idée. Mais... Donc voilà, il faut rester éveillé, curieux. Je pense qu'il faut marcher dans la rue.
Il faut sentir l'air du temps.
Ouais,
il faut
aller dans les magasins, mais pas que dans les magasins de luxe. Il faut sentir qu'est-ce qui se passe juste pour capter des trucs. Moi, je ne suis pas créatif, mais je suis lié à la création. Donc je ne peux pas dire à quelqu'un, t'es à côté de la plaque, en étant moi-même à côté de la plaque. Ça ne marche pas, mon conseil. Moi, je pense que c'est beaucoup c'est beaucoup avec les gens avec qui on s'entoure. Moi, par exemple, je sais que j'ai un problème avec le côté la musique et tout ça. J'écoute des trucs des années 80. Je sais que je connais plus les nouveaux groupes. Ou les nouveaux trucs. Ça, je sais que je suis en déconnexion. Je le saurais pas sur le cinéma parce que mais par exemple la musique, bon, j'ai toujours été ringard donc ça va pas changer, mais ça, j'aime bien qu'on m'informe sur la musique, mais parce que c'est une donnée, c'est tout, la musique c'est important. Mm. C'est là où on sent aussi la vibe des gens, où ça va, ou je sais pas, c'est
Est-ce que vous feriez un truc différemment
sur mon parcours ou, ouais. ou maintenant?
Sur votre parcours et maintenant
Non.
On change rien.
Ouais. Je change rien. Si je devais remonter très loin, j'aurais été meilleur dans mes études au lycée, par exemple. Je faisais du russe, je faisais de l'espagnol, je faisais de l'anglais. Je suis incapable de parler russe ou espagnol. Enfin, bon, c'est débile ce que je dis, mais j'aurais été meilleur en orthographe. Je ne sais pas comment dire. J'ai ce regret, et c'est hyper difficile de dire ça à des jeunes, mais quand on a quitté l'école depuis longtemps, je me dis, putain, on était là, payé à rien faire, à juste apprendre des trucs et lire des trucs intéressants. Mm. Et j'en ai pas profité, j'avais envie d'être ailleurs. Mais je pense que c'est le propre de la jeunesse.
De la jeunesse, bien sûr.
Mais je me dis, j'aimerais bien retourner là et dévorer tous les livres, parler espagnol, parler russe. J'avais que ça à foutre. C'était pendant mes journées. Et j'étais bon élève, j'étais pas nul. J'aurais pu tellement apprendre qui m'aurait servi aujourd'hui encore plus.
Une question que
j'aimerais bien plus me cultiver, je me cultive pas trop.
Vous n'avez pas le temps.
J'ai pas le temps. Ouais, mais c'est pas une raison. Le samedi, je vais plutôt aller faire le magasin ou marcher ou aller au restaurant que d'aller dans un musée. Je le regrette, il y a tellement de beaux trucs à Paris, mais j'ai peur d'un coup, il y a la queue, il va falloir faire la queue, il va falloir s'organiser. Ça devient comme un travail, en fait, d'aller au musée. Je suis angoissé. Est-ce qu'on a pris les places à temps? Est-ce qu'on va faire la queue? Est-ce qu'il va pleuvoir? Est-ce qu'on va faire la queue sous la pluie? je trouve toutes les raisons pour pas le faire, et ça, je regrette. Après, je me dis, on a plusieurs vies. Peut-être quand je serai plus vieux, j'aimerais bien être super cultivé quand je serai vieux.
On arrive à la fin. Hein. J'ai encore deux, trois questions. Mais une nouvelle question que j'aime bien poser, c'est est-ce que vous avez eu un échec cuisant dans votre vie qui vous a appris énormément de choses, qui était hyper formateur ?
Oh, j'ai eu des échecs, mais c'était pas cuisant. Je ne sais pas comment dire. En tout cas, c'est toujours un peu contrôlé. Il y a des trucs qui se passent pas comme je veux et qui me font de la peine, mais c'est pas cuisant. Je sais pas, qu'est-ce que j'ai. Je sais, je. Peut-être très jeune, peut-être pas récemment, plus jeune, plus dans l'adolescence, plus. Des trucs. En fait, je pense pas qu'il faille souffrir pour apprendre. C'est plus. Faut observer et se dire, tiens, pourquoi ça a marché, pourquoi ça n'a pas marché. C'est plus de l'analyse des trucs à chaque fois. Mm. Mais j'ai pas eu encore un revers qui me. Je veux dire, je sais que la vie est difficile depuis longtemps. J'ai pas. J'ai dû me battre pour arriver là où je suis. Je sais pas comment dire. J'ai imposé pas mal de trucs dans ma vie. Je suis venu à Paris. J'avais peur. Je venais de la montagne. Je me suis dit, je vais faire une école de mode. Je me disais, mais tu vas être tellement pas à ta place et tout ça. Enfin, et puis j'ai réussi à faire mon truc. Donc, je sais que la vie est pas. Enfin, je veux dire, j'ai pas besoin de prendre une claque pour comprendre que la vie est. Enfin, pour avoir des leçons de la vie. En fait, elle se déroule d'une manière. Tantôt pénible, tantôt joyeuse, mais enfin, je veux dire, j'ai pas besoin d'aller toucher le fond pour comprendre. Enfin, j'espère.
Oui, bah c'est mieux.
Enfin, je veux dire, c'est la vie, quoi. C'est.
Ouais. Et une autre question aussi. Quand vous êtes parti de chez Marc Ascoli et que Adam Kimmel est venu vous chercher. Il semble avoir lu dans un de vos interviews que vous disiez quand j'étais chez Marc Ascoli, j'avais pas encore trouvé ce à quoi j'aspirais. Comment on sait
le vivant. Ouais. Après moi, vous m'auriez dit quand j'étais jeune, tu vas être attaché de presse dans la mode, j'aurais sauté par la fenêtre. J'avais pas du tout envie de ça. Mm.
Ouais, il faut le faire pour le comprendre.
Le sentir. Et puis je sais pas si je vais faire ça toute ma vie non plus. Je sais pas. Ça peut me saouler. Hein. Puis j'aime bien l'idée d'aujourd'hui d'avoir plusieurs vies
et de changer.
Ouais, je trouve qu'il y a un truc assez beau dans l'idée d'avoir plusieurs vies. Et voilà. Après, je suis embarqué dans un système. J'ai des gens qui dépendent de moi. J'ai des clients. Je peux pas partir comme ça. Hein. J'ai des responsabilités. Mais parce que je suis pas tout seul, je veux dire, j'ai 25 personnes ici, je peux pas, je suis garant aussi de, je peux pas péter les plombs. C'est leur travail. Après, ils pourraient trouver travail ailleurs, mais c'était quoi la question? Je m'en rappelle plus.
Comment on sait ce qu'on aime? C'est en faisant.
Ouais, c'est très dit. Après, il y a des gens qui ont des trajectoires différentes. Il y a des gens petit, je voulais être dans la mode et je suis dans la mode. Après, je me suis aperçu qu'en fait, peu importe où c'était la mode. Ma passion pour la mode était supérieure à ce que j'allais y faire. En fait, je l'explique pas. Je sais pas pourquoi. C'est pour ça que j'aime les gens passionnés par la mode parce que je me reconnais en eux. Et je ne comprends pas cet attrait pour la mode, en fait.
Je comprends. Dernière question. Qui souhaiteriez-vous entendre dans ce podcast?
Il faut que je réfléchisse. Il faut que je trouve un truc intéressant et pertinent. Qui j'aimerais bien entendre dans ce podcast? C'est sur entreprendre.
Entreprendre dans la mode.
Il faut prendre quelqu'un qui a entrepris.
Oui, a priori. Ouais.
Je souhaiterais entendre. J'aimerais bien entendre quelqu'un comme Michel Montaigne ou Coquille de Salvert, qui ont fait des bureaux incroyables, qui ont révélé les plus grands talents de notre époque. Raph Simons, Coquille et Bernard Willem. Et Michel Montaigne avec Helmut Lang et Martin Simon, Jean Colonna. Enfin, ou alors, j'aimerais bien entendre Martin Margiela ou Helmut Lang. Mais ça, good luck.
Vous mettez la barre super haut. Très bien. Eh ben, écoutez, merci infiniment et bonne chance pour la suite.
Merci, bonne chance pour le podcast.
Merci, à bientôt.
Merci d'avoir écouté Entreprendre dans la mode. Si l'épisode vous a plu, je vous invite à laisser un message aux invités directement sur leurs réseaux sociaux pour les remercier de leurs bons conseils et de leur générosité. C'est très important pour montrer que entreprendre dans la mode est vraiment écouté. Tout aussi important, abonnez-vous au podcast et laissez un avis sur Apple Podcast ou iTunes, 5 étoiles de préférence, car ça permet à Entreprendre dans la mode de rester en haut du classement et d'être donc découvert par de plus en plus de gens. Et surtout, ça me motive à faire de meilleures interviews. Il n'y a pas de pub sur ce podcast. Entreprendre dans la mode est financé par ses auditeurs sur patreon.com. Vous pouvez vous aussi rejoindre cette communauté et soutenir Entreprendre dans la mode à partir de 2 euros par mois en allant sur patreon.com/entreprendre-dans-la-mode. Le lien est dans la description de l'épisode. Enfin, pour ne rien rater de l'actualité de Entreprendre dans la mode, vous pouvez me suivre sur Instagram en cherchant Entreprendre dans la mode. Merci de soutenir ce podcast et à mardi prochain pour un nouvel épisode.